La première, podcast. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussée.
Nous sommes sous la période de l'occupation, lors de la Deuxième Guerre mondiale, violence bien sûr, souffrance, désespérance et divertissement. C'est ainsi, dans la tourmente, on cherche malgré tout à faire la fête. Et c'est dans ce contexte qu'à Bruxelles, plusieurs cabarets venus de Montmartre vont créer en quelque sorte leur double. Et cela plus particulièrement dans les années 1940-1942. Le Grillon, la Poulaille, la Boîte à sel, ils sont situés du côté des places de Brouckère et Rogier ou à la porte de Namur. Ce sont des endroits où chansonniers, comédiens, musiciens manient la légèreté, la satire aussi, on se moque beaucoup de l'occupant, et l'émotion.
Un jour dans l'histoire.
Un jour dans l'histoire sur la première.
Avec nous aujourd'hui, Hugo Rodriguez. Bonjour.
Bonjour.
Hugo Rodriguez, vous êtes musicologue à l'ULB, vous êtes doctorant et vous êtes donc intéressé à cette période de l'occupation à Bruxelles et aux cabarets qui ont marché, qui ont fonctionné pendant cette période de trouble. Alors, assez peu de sources sur cette histoire. Comment vous avez travaillé, où avez-vous retrouvé des archives, des sources?
On a d'abord été, donc, avec Itzana Dobelard, ma collègue, on a d'abord été aux archives de la ville de Bruxelles pour essayer de trouver des partitions, des enregistrements sonores, mais il n'y en avait pas. Pour les cabarets vraiment montmartrois, d'obédience montmartroise, il n'y avait aucun enregistrement sonore. Alors on s'est tourné vers la presse, vers la radio de l'époque, donc Radio Bruxelles, et vers des témoignages indirects, donc avant la guerre ou après la guerre, donc des personnalités qui ont été actives pendant la guerre, mais qui l'étaient également avant et après, et avec des recoupements divers, on essayait de reconstituer un petit peu de cette ambiance.
Alors c'est un constat déjà qu'il faut faire, c'est que l'étiquette cabaret est utilisée pour désigner deux types de lieux très, très différents. Alors les premiers sont plutôt des music-halls, des dancing.
Mais oui, on utilise l'étiquette cabaret parce que c'est chargé de quelque chose de positif et donc chacun veut un petit peu se l'accaparer pour mettre en valeur son lieu de loisir. Alors on a d'un côté les cabarets music-halls ou cabaret dancing. Ça c'était quoi? C'était des salles qui étaient très grandes, richement décorées, où on avait généralement d'abord un thé avec un petit spectacle. Puis vous aviez un spectacle proprement dit avec énormément de variétés. Vous aviez de la danse, de la musique, vous aviez du théâtre, des acrobaties, de l'humour, de la magie, tout ce que vous voulez, du cinéma même. Et après, vous aviez généralement une soirée dansante. Donc on tirait les tables, il y avait une piste au milieu et l'orchestre se mettait à jouer et on dansait jusque
très tard dans la nuit.
Ça, c'était pour les cabarets dancing. Alors l'ancienne Belgique, c'était un exemple très connu. Ou alors le Bœuf sur le Toit à la porte de Namur.
Le Corso, boulevard Adolphe Max, le Getty qui était l'ancienne Gaîté, c'est ça?
Voilà, il était en dessous en fait. Ouais. Le Getty était en dessous du théâtre de la Gaîté et les deux ont fermé.
Avant d'en arriver aux cabarets de type Montmartrois, chose étonnante quand même dans ces cabarets de style musical, donc c'est qu'ils sont un temple du jazz aussi, ce qui est étonnant pour l'époque.
Mais oui, parce que les Allemands voulaient éradiquer le jazz, parce qu'ils trouvaient que c'était une musique dégénérée, mais ils n'y sont jamais parvenus, parce qu'à l'époque, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais le jazz était vraiment la musique populaire. Et donc, elle était aussi porteuse d'une joie, d'un dynamisme qui était nécessaire pour la population de l'époque. Et donc, ils ont essayé de diminuer son influence ou de germaniser, si vous voulez, les cabarets musicaux, mais ils n'y sont pas parvenus. Alors voilà, ils toléraient, vaille que vaille, cette musique-là. Alors les jazzmen, comment ils faisaient pour s'en sortir? Ils transformaient leur titre, ils changeaient le titre anglais, ils le mettaient en français ou en néerlandais. Et ils inventaient toutes sortes d'astuces pour essayer de faire passer cette musique comme quelque chose d'autre que du jazz américain.
Qui fréquente ces cabarets de type musical et dancing?
La classe moyenne au sens large et la classe aisée également, parce que les droits d'entrée étaient assez élevés en fait, hein, beaucoup plus que dans les cabarets montmartrois. Et vous aviez vraiment la classe moyenne. Vous aviez des équivalents dans les quartiers plus populaires de Bruxelles, mais ceux-là sont vraiment très difficiles à décrire parce qu'il y a encore moins de sources.
Vous avez d'ailleurs jeté un œil sur l'ensemble, je dirais, de l'Horeca pratiquement à Bruxelles en ce temps-là, c'est-à-dire cabarets, brasseries et cafés, il y en avait des milliers.
Oui, l'annuaire de 1940, rien que les cafés, brasseries, vous avez 20-25 pages avec des centaines de noms par page. Ça pullulait partout dans la ville. Et nous, on s'est intéressé à trois quartiers, donc De Broucker, Rogier et Port de Namur. Et rien que cabaret, Music Hall et Montmartre 3, on en avait déjà 85. Dans la rue de l'Évêque, donc qui donne sur la place de la Monnaie, vous aviez plus de 30 établissements avec orchestre permanent dans chaque établissement. C'est vous dire le nombre.
Jusqu'à 14h, un jour dans l'histoire, sur la première.
Voilà, un petit medley préparé ici par Elena Verrier de ce que l'on pouvait entendre à l'époque, hein, dans ces années d'occupation à Bruxelles. Donc, dans ces cabarets de style Montmartre, on va en parler avec vous, Hugo Rodriguez. Il y avait ici Django Reinhardt et Fred Kondrix. C'est une musique très, très particulière, ça, qui a une histoire particulière.
Oui, c'était Fud, Kondrix.
Ah bon, pardon. Alors, cette chanson, cette musique, ça rencontre quoi, l'histoire?
En fait, c'était un tube. Une chanson sentimentale qui a été faite par une chanteuse qui s'appelle Léo Marjan, qui est toujours vivante d'ailleurs, je crois. Et pendant la guerre, ça évoquait pour surtout les femmes qui étaient restées au pays, le mari parti, et donc elles étaient seules le soir. Et donc on a beaucoup, beaucoup repris cette chanson, et elle servait un peu d'hymne mélancolique aux gens pendant la guerre.
On a entendu aussi Gus Delauve, c'est ça? Vous avez un petit chapeau, un beau chapeau, madame, qui est d'ailleurs l'indicatif de l'émission de Marc Danval sur la première, la troisième oreille.
Qui nous a beaucoup aidés.
Voilà. Ah, Marc Danval, c'est une source précieuse et inépuisable, vous l'avez dit. Et Jean Homer, Maman les petits bateaux. Alors il y a donc à Bruxelles, sous l'occupation, ces les cabarets type dancing musical, on en a parlé. Et puis une autre branche que vous avez identifiée, Hugo, les cabaret Montmartre 3, référence bien sûr à Montmartre. Ce sont des cabarets de chansonniers. Alors, comment est-ce qu'ils se présentent, ces cabarets?
Ils essayent de se démarquer des cabarets musicals. Déjà, ils sont beaucoup plus petits. C'est des salles qui accueillent quelques dizaines de personnes seulement. La décoration est beaucoup plus sobre. Et le but affiché est de recréer l'ambiance et également la production esthétique des cabarets de la grande époque de Montmartre, hein, le Chat Noir, le Mirliton, le Lapin Agile avec Aristide Bruand et tous ces gens-là. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font venir plein de chansonniers, de chanteuses, diseuses, des conteuses, des acteurs. Et sur une petite scène avec un piano, ils chantent des chansons qu'ils ont eux-mêmes composées, puisque c'est le principe du chansonnier, c'est qu'ils chantent ce qu'ils composent. Et également des petits sketchs, des monologues, des chansons improvisées, des dialogues improvisés. Et vous aviez un public en fait, qui était progressivement un public d'habitués. Et donc il y avait une grande connivence qui se créait, qui n'était pas comme le côté un petit peu impersonnel parfois des grands cabarets musicals. Et généralement, alors les gens revenaient et on se faisait apostropher quand on entrait, parfois de manière assez violente, mais c'était le jeu. On se faisait insulter quand on entrait, mais c'était le but.
D'accord.
En fait.
Donc, c'est beaucoup moins cher aussi que les grands cabarets, c'est ça?
Oui, les droits d'entrée sont moins élevés. Donc vous avez plutôt des gens qui ont un peu moins de moyens financiers.
Alors, est-ce que ce sont les propriétaires, les créateurs des cabarets à Montmartre qui viennent s'installer à Bruxelles? Comment ça se passe?
Une bonne partie, oui. Ce sont des gens qui étaient chansonniers à Montmartre et qui sont venus, pour diverses raisons, soit avant la guerre carrément, soit pendant la guerre, pour recréer tout ça à Bruxelles. Soit c'était des gens qui étaient bruxellois et qui voulaient recréer ça également.
Alors je le disais tout à l'heure, ce sont des chansonniers, vous l'avez dit, où c'est une satire aussi, ce sont des satiristes, ce sont des caricaturistes, on se moque de l'occupant.
Ça, c'est le point sensible. Est-ce qu'on se moquait vraiment ou pas? Est-ce qu'on pouvait considérer ces lieux comme des lieux de résistance culturelle ou résistance passive? C'est très difficile à dire parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de source directe ou très peu pendant la guerre, à part la presse, mais c'est une presse majoritairement collabo. Donc, bon, difficile de lui faire confiance à 100%. Donc, il semblerait que certainement il y ait eu des moqueries, mais elles étaient très canalisées, très cadenassées par la censure qui était très forte et qui réclamait le programme de chaque spectacle avant la représentation. Donc la moindre chose qui pouvait sembler un peu subversive envers l'occupant, elle était immédiatement enlevée. Alors comment est-ce qu'ils s'en sortaient ? Ils essayaient d'utiliser des choses que les Allemands ne pouvaient pas comprendre, c'est-à-dire des références locales, en zouans, en bruxellaire. Ils faisaient des petites blagues sur un événement qui venait de se passer, une bataille perdue. Alors ils transformaient, ils cherchaient le lieu de la bataille, ben ils le transformaient en mot argot. Ils faisaient une blague, tout le monde rigolait, les Allemands ne comprenaient pas, et tout le monde était content.
Parce que les Allemands fréquentaient aussi ces endroits.
Oui. Tout comme les cabarets musicaux, d'ailleurs. Et c'était assez risqué, évidemment. Il fallait quand même faire attention. Et ça pose aussi la question de savoir jusqu'à quel degré les chansonniers et les directeurs pouvaient également être impliqués, avoir des accointances avec l'occupant. Il y en a qui ont eu des problèmes après la guerre et qui se sont fait prendre parce qu'ils étaient parfois également journalistes à Radio Bruxelles.
Alors, les plus célèbres, les plus importants, le Grillon, par exemple, rue de l'Écuyer, est-ce qu'il y a encore des cabarets qui ont perduré aujourd'hui, qui portent toujours ces noms?
Il y a toujours eu un noyau de cabarets de type Montmartre à Bruxelles, mais ça n'a jamais réussi à s'implanter durablement. Vous aviez déjà eu une vague, une mode dans les années 1900, qui avait périclité à partir de 1910. Vous avez eu ce renouveau intense, mais très court, pendant la guerre. Puis ça a de nouveau périclité. Et il y a eu Jodek Min, qui après la guerre a essayé de relancer ça avec la poubelle, la tour de Babel et l'os à moelle, qui existe toujours d'ailleurs. Ça n'a pas non plus pris massivement. Et vous avez encore aujourd'hui quelque chose qui s'appelle, je crois, le cabaret aux chansons, qui se trouve près de la Grand Place. Mais voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui est toujours latent, mais qui n'a jamais réussi à émerger massivement.
Jodek Min, qui dirige aujourd'hui le théâtre 140. Alors on peut aussi citer encore pendant cette période de l'occupation la boîte à sel, place de la Monnaie, la poule. Ou le poulailler ?
Le poulailler.
Le poulailler, rue Auguste Horst, et puis la Butte, par exemple, Port de Namur. Ces cabarets, donc sous l'occupation, les années surtout 41-42, enfin c'est 2-3 ans.
Oui, en 39, vous en aviez qu'un, dans les quartiers qu'on a étudiés, c'était le Grillon. En 41-42, vous en aviez plus de 10, donc ça avait décuplé. Et en 44-45, vous en aviez déjà plus que 4 ou 5. Et dans ces 4 ou 5-là, la plupart, si vous voulez, avaient renié leur filiation montmartroise en grande partie pour se calquer plutôt sur le music-hall et devenir des sortes de mini-music-hall parce qu'à Bruxelles, c'est ce qui plaisait plus à long terme.
Un jour dans l'histoire.
Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, maintenant, je voudrais vous chanter une chanson. C'est une chanson très sentimentale. Alors, je vous demanderai le plus profond silence. Et le plus pieux recueillement. Merci. Oh, mi amor, viens à la fenestra la noche. Avec ta flotte, je serai ta crotte.
Un jour dans l'histoire sur la première.
Voilà, Simone Max ici, Adios Muchachos, c'est une chanson qui date pas de la période de la guerre. Hugo Rodriguez, mais Simone Max, on l'entendait à cette période. Et puis Stan Brenders, Fascination. Alors Simone Max, c'est plutôt dans les dancing, c'est ça les...
Dancing, non, mais disons que c'était plus dans les cabarets grands... de grande taille, et elle n'était pas... En tout cas, on n'a pas trouvé de traces d'elle dans ces cabarets Montmartrois. Et vous voyez que c'est un humour qui est vraiment, vraiment typiquement bruxellois. Ouais. On est loin de la gouaille de Bruyant ou d'Arletty. Mais ça se rapproche quand même beaucoup de ce qu'on faisait, d'un type d'humour comme ça, très bonne grosse rigolade pour essayer d'oublier les soucis du quotidien.
Et puis Stan Brenders, donc Fascination, c'est un titre symbolique, ça?
C'est une reprise, en fait, d'un grand tube des années 1900, qui avait eu beaucoup de succès à l'époque. Et ça, c'est important parce qu'au fur et à mesure que la guerre va évoluer, les directeurs des cabarets montmartrois vont se rendre compte qu'il y a une sorte d'incompatibilité culturelle entre l'esprit l'humour à la Montmartre, donc la gouaille parisienne, si vous voulez, et la zoance bruxelloise, le bruxellaire. Alors, c'est très difficile à démontrer, mais déjà, à l'époque, les gens s'en rendent compte. Et donc, ils essayent de réorienter leur programmation, mais ils veulent quand même garder l'étiquette Montmartre, parce que c'est porteur, sinon ils seraient avalés par les music halls. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils réécrivent l'histoire des cabarets Montmartrois, et ils font semblant, si vous voulez, que Montmartre, en fait, c'est les grands tubes populaires des années 1900, ce qui n'était pas le cas. Fascination, c'est une chanson sentimentale, toute bête, très belle, hein, soit dit en passant, mais toute bête, c'est pas vraiment l'esprit avant-gardiste, bohème de Montmartre.
Il y a des différences. Est-ce que justement, vous parlez de cette bohème, il y a une bohème à Bruxelles, des artistes qui, composent un groupe qui serait la bohème, une bohème. Ouais.
Oui, il y a vraiment un noyau de gens qui sont un peu bohèmes dans le modèle de Montmartre. Et c'est vrai qu'après ces soirées dans les cabarets Montmartrois, ils se retrouvaient souvent dans l'un d'eux, et là ils s'enfermaient, si vous voulez, littéralement, et ils composaient, ils chantaient, ils buvaient, ils faisaient la fête entre eux, plus avec le public. Donc il y avait un after, comme on dit aujourd'hui, qui durait vraiment longtemps.
On a le droit de faire la fête tout au long de la nuit? Est-ce que la police jette un œil ou...
Théoriquement, non, il y a le couvre-feu, il y a l'occultation, donc le public partait, si vous voulez, mais... À l'intérieur, s'ils avaient fermé toutes les fenêtres, il n'y avait plus rien et qu'il n'y avait presque aucun bruit, en tout cas qu'on n'entendait rien dehors, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe?
Alors, quelques célébrités dans ces cabarets. Léo Campion, par exemple, un anarchiste. Son père était belge, je pense. Il est né à Paris. Il est important pour cette période, Léo Campion.
Ah oui, c'est une des figures de proue. Hein. C'est quelqu'un qui avait déjà été très connu dans les années 30. Il avait été objecteur de conscience. Il avait eu à subir un procès retentissant à l'époque. Et c'était quelqu'un de très doué, à la fois dessinateur, parolier, chansonnier. Et il incarne vraiment le chansonnier à la bruxelloise et aussi à la parisienne. Il avait l'habitude de chanter très faux. Et c'était une des caractéristiques importantes des chansonniers, c'était de chanter mal, mais de chanter des choses drôles et satiriques. Et à un moment, il semblerait qu'il ait pris des cours de chant, et ça n'a pas plu du tout au public. Et la presse s'en fait l'écho en disant « Mais qu'est-ce que c'est? Il chante, ça va devenir Tino Rossi ou quoi ?» Et donc il voulait absolument qu'il arrête de chanter juste, et il s'est remis dans son ethos de chanteur faux, mais marrant.
Léo Campion, qui est le fondateur aussi de l'hebdo Le Pan, et puis Jacques Lippe, Jacques Lippe qui a été célèbre avec sa composition du père de Suzanne Queux dans Le mariage de Mademoiselle Bullmans, il démarre dans les cabarets.
Il était tout jeune à l'époque, très peu, on n'en parlait quasiment pas dans la presse d'ailleurs, mais c'est là où il démarre au Grillon, le cabaret de Jacques Lehar.
Un autre qui est un journaliste, Pierre Châtelain-Tellade, qui est un journaliste au Canard Enchaîné, qui dirige aussi la boîte à sel à Paris et à Bruxelles, c'est ça hein?
Non, pas à Paris, mais il faut dire Taillade en fait.
Taillade, voilà. Ça montre bien encore la position que Bruxelles occupait en matière d'accueil aussi des exilés politiques notamment.
Oui, Châtelain-Tellade, c'est l'exemple type. Lui, il avait fui déjà avant la guerre également, pour des raisons politiques, parce que c'était aussi un anarchiste. Ouais. Et lui, je crois que c'est la personnalité la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes de cette mouvance cabaret, c'est celui qui est le plus orthodoxe. Il veut vraiment, il ne lâche rien de Montmartre, il veut vraiment faire un cabaret très intellectuel, très avant-gardiste. Malheureusement, c'est le sien qui va fermer en premier, parce qu'il était, si vous voulez, trop exigeant par rapport au contexte de l'époque. Il s'en rendait compte d'ailleurs, mais il a vraiment fait de très bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est le gendre de Laurent Taillade, qui était une des grandes figures de l'époque, 1890-1900, qui était un anarchiste également très connu.
On le connaît aussi sous le pseudo de Valentine de Coincoin, Pierre Châtelain-Taillade. Les femmes, on va voir si les femmes sont importantes dans ces cabarets. Avec vous, Hugo Rodriguez.
Je suis fier de ma capitale, car à tous elle sourit, et d'elle, chose peu banale, on dit que c'est un petit Paris. Le petit jet d'eau de notre monarque pisse, notre palais de justice, Bruxelles. L'hôtel de ville, le parlement, inutile, la prison de Saint-Gilles, Bruxelles.
Oh, je suis près de toi, je voudrais parfois lire au fond de tes yeux tout ce que tu veux.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Alors les femmes, Hugo Rodriguez, dans ces cabarets bruxellois sous l'occupation, on vient d'entendre Simone Max avec Bruxelles, qui est une adaptation d'un titre, d'un tube.
Qui s'appelait Pigalle, donc vous voyez bien l'affiliation avec Paris.
Et puis Tahoma, alors là c'est la célébrité de l'époque.
Oui, c'est une chanteuse belge qui a démarré en 1941. Par cette chanson.
Un petit peu salace. Hein.
Oui, un petit peu salace. Ça s'appelle Tu m'apprendras. Vous devinez ce qu'elle va apprendre. Ouais. Et en fait, elle était mariée à Ludo Langlois, qui était un peu un des hommes de l'ombre de toute cette vie de spectacle à Bruxelles, qui a composé des milliers de chansons pour toutes sortes de gens. Il l'a repérée, il l'a prise sous son aile et il en a fait une vedette très importante à l'époque.
D'autres encore, il y a Claude Alix, par exemple, alias Rita Rock, c'est ça?
Je ne sais pas qu'elle s'appelait Rita Rock alias. Mais...
J'ai vu des affiches avec elle en faisant un petit peu de recherche où effectivement on voit Rita Rock ou Claude Alix. C'est une des chansonnières de l'époque.
Oui, parce que Tahoma, Simone Max, tout ça, c'était plutôt dans les cabarets musicals. Mais dans les cabarets de chansonniers Montmartre, les femmes étaient très présentes. Vous aviez beaucoup de femmes qui étaient sur scène, mais elles n'étaient que sur scène. Ça veut dire qu'elles étaient interprètes. Elles ne composaient pas, elles n'écrivaient pas. C'était une loi tacite. Et la seule qui faisait exception, enfin en tout cas celle qui était connue et qui faisait exception, c'était Claude Alix. Et elle était vraiment une chansonnière à part entière, une sorte de Barbara belge et blonde pendant la guerre. Elle était mariée d'ailleurs à un jazzman connu qui s'appelait David Bee.
Et elle va je dirais, faire un autre type, composer un autre type de chanson, ou c'est aussi dans cette vague de la satire, de la caricature?
Non, pareil. En fait, elle va vraiment dans la veine des chansonniers masculin.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, au fond, cette période des cabarets, donc de style Montmartre à Bruxelles, elle est très très courte. Est-ce que les artistes vont être balayés aussi avec les cabarets?
Ils vont se reconvertir, parce que donc ils vont se rendre compte de cette incompatibilité culturelle, mais également il y avait un problème de contexte. Montmartre, c'est la satire, c'est l'avant-garde, c'est le modernisme. Comment voulez-vous déployer cette esthétique-là quand vous êtes dans un contexte où vous ne pouvez absolument rien dire, critiquer personne, à part des choses banales comme le prix du beurre ou des aliments, le fait qu'on n'a plus de combustible, ce genre de choses-là. Il y a un moment, on épuise le filon. Donc, ils se sont trouvés bloqués, si vous voulez, par les circonstances et ils se sont reconvertis dans un style qui vire beaucoup plus vers le musical.
Il y avait des échanges entre les cabarets Montmartrois de Bruxelles et ceux de Paris, entre les artistes?
Oui, hein, y en a beaucoup qui ont fait des va-et-vient. Léo Campion, d'ailleurs, est allé pendant, je crois, un an et demi à Paris, pendant la guerre. Et puis, il est revenu. Donc oui, il y avait beaucoup de contacts.
On va se remettre un peu dans l'ambiance de ces cabarets avec Django Reinhardt et Swing. C'est plus l'ambiance de l'époque. Swing, Django Reinhardt en 1941. Alors c'est une médiatisation assez importante à l'époque par rapport à la taille de ces cabarets, Hugo Rodriguez.
Oui, c'était des petites salles, hein, je l'ai dit. Et pourtant, la presse relayait énormément ces spectacles-là. Et la radio aussi. On avait même fait une émission qui s'appelait Le Cabaret de la Bonne Antenne, où on invitait ces chansonniers à faire leur spectacle, mais on n'avait pas tout le reste, on n'avait pas le décor, on n'avait pas l'ambiance. Et donc les gens se sont dit, on va mettre du jazz. Même si on n'en mettait pas beaucoup, on s'est dit ça va être le concentré sonore de l'atmosphère des cabarets et ça a très bien marché.
Alors résultat de vos recherches, c'était un colloque qui a eu lieu et puis il va y avoir une publication, c'est ça?
Oui, c'était un colloque qui portait sur la vie musicale en général pendant la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Il a eu lieu à la Bibliothèque royale le mois dernier et les actes vont être publiés dans un certain temps. Je ne sais pas exactement quand, mais ils vont être publiés.
Ça veut dire qu'on y aura accès?
Oui, bien sûr.
Ok. Parfait alors, Hugo Rodriguez, revenez nous voir un de ces jours donc, pour parler d'autre chose que de ces cabarets bruxellois sous l'occupation. Merci beaucoup, Hugo.
Merci beaucoup.
Les cabarets bruxellois avec Hugo Rodriguez, musicologue à l'ULB. C'est une émission que l'on vous a proposée une première fois le 14 novembre 2013. Restez avec nous, on se retrouve juste après les informations de 14h. Nouvel épisode de la série Les Bonnes Manières, 6 leçons ludiques pour découvrir d'où viennent ces règles du savoir-vivre à travers les âges. À tout de suite.